vous la pression qui pèse sur les hôpitaux, d'autant que le professeur, dont le docteur Philippe Juvin, a évoqué une vague qui allait arriver. Mais d'abord, Emmanuel Macron a parlé d'une immobilisation des Français, en tout cas limiter au maximum pendant 15 jours les déplacements. Ça vous semble suffisant ?
Alors, d'abord, il faut qu'on fasse, comme il a dit dans son premier discours, qu'on fasse nation. Donc, il n'est pas l'heure de critiquer ou de réajuster. C'est 15 jours, à mon avis, ça sera minimum. Un peu plus. Voilà. Mais il faut peut-être y aller progressivement. Nous sommes Français, donc d'un coup, si on nous met comme ça des entraves, ça peut poser quelques problèmes. C'est ultra important et nécessaire. Parce qu'on est avec un ennemi invisible qui nous fait pas peur dans 80% des cas, mais qui dans 20% des cas peut nous faire peur et dans 5% des cas est vraiment potentiellement très grave. Et létale dans 1,5% des cas. Il faut savoir, ça c'est rassurant, parce qu'il faut quand même rassurer un peu les gens, qu'on reste sur ces proportions-là. D'accord ? Donc on n'est pas avec un virus qui mute et qui va tuer de plus en plus, on est sur cette position-là. Le problème qu'on a, on le voit dans l'Est, comme a dit le professeur Juvin dans le Grand Est, c'est-à-dire qu'en fait, on a une vague, une énorme vague, une sorte de tsunami sanitaire qui est en train de nous arriver dessus. Pour arrêter le virus, pour tenter de l'arrêter, pour tenter de limiter cette vague, en fait, il faut qu'on limite les contaminations. Et pour ça, c'est l'idée du confinement qui a fonctionné en Chine. Que les Italiens ont essayé de mettre en place et on a vu ce que ça donnait. Nous, il faut qu'on continue. Ça a déjà, statistiquement, faut quand même voir qu'on n'est pas si nul que ça parce que les Italiens ont eu une courbe comme ça et comme ça. D'accord. Ouais. Nous, on est quand même sur une courbe qui est beaucoup plus lente. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Hein.
Alors, Nadia, vous avez relevé parmi les questions qu'on a reçues de nos internautes une question pour Patrick Peloux.
Oui, donc une question de téléspectateurs que je vous lis et que je vous transmets. C'est celle-ci. Est-ce que la chaleur de l'été, la hausse des températures, donc, peut mettre fin à cette épidémie, Patrick Peloux? C'est deux questions en une. Est-ce qu'il y a déjà une corrélation entre les températures et le virus, comme c'est le cas pour la grippe saisonnière, par exemple? Et est-ce que cette courbe dont vous parliez, qui est ascendante, elle peut se casser? Est-ce qu'on a déjà prédit le moment où elle va se casser, s'inverser?
Alors, c'est possible. Il y a un débat chez les virologues. Je ne suis pas virologue, mais il y a un débat. Mmh. Mais c'est possible. C'est possible qu'on va vers les beaux jours, que ça, quelque part, ces virus-là n'aiment pas trop la chaleur. Si ça monte...
Sachant qu'il y a des cas quand même, malgré tout,
voilà, Moyen-Orient et dans des pays. Mais il faut être extrêmement prudent sur nos avis et sur la longévité de cette épidémie. Ce qu'on sait, là, si vous voulez, en gros, on part quand même sur un scénario qui est de 2 mois à 3 mois. Quand on regarde ce qui s'est passé en Chine, ce qui se passe en Italie, donc on sait, en gros, qu'on est parti sur 2-3 mois.
Vous n'êtes pas virologue, mais vous êtes urgentiste. Quelle est la situation aux urgences, Patrick Peloux?
Alors, ça c'est intéressant parce qu'en fait, l'activité...
C'est pour ça que vous êtes là.
L'activité est vraiment très soutenue et avec des cas qui sont de plus en plus de cas liés au coronavirus. D'accord ? Donc, en fait, on sent qu'il y a une bascule. La question qu'on a entre nous, c'est que, et c'est sincère, on se dit, mais alors où sont passés les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, etc. Et à côté, là, c'est probablement l'anthropologue que vous allez recevoir tout à l'heure qui peut répondre. Ouais. C'est vraiment une interpellation. Écoutez, l'ensemble des hospitaliers, l'ensemble des services, tout le monde est le nez dans le guidon. On fait tout pour sauver le maximum de monde, pour répondre à nos missions de service public. Je pense notamment particulièrement à ce qu'on fait à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Ouais. On est là, on est présent. Mais c'est vrai, on n'a jamais vu ça. J'étais de garde la nuit dernière, 11 000 appels au SAMU de Paris. D'habitude, on est à 2 500, 3 000.
Patrick Peloux, on en a entendu parler. Est-ce que viendra un moment, est-ce que ce mouvement est déjà venu, où il faudra faire du côté des médecins le tri entre les malades, laisser partir sans soins les plus anciens d'entre nous pour protéger les jeunes, ou est-ce que c'est pur fantasme, pure dystopie de notre part?
Alors, non, Claude, y a plusieurs choses. D'abord, la notion de tri quand on est dans un service d'urgence, c'est quelque chose qu'on connaît parfaitement. Parce qu'on priorise les plus graves et ceux qu'on peut sauver, d'accord, avant toute chose, et ceux qui ont des pathologies bénignes, on les met de côté. Ce que nous avons décidé là, et c'est le cas maintenant, c'est-à-dire que pour le coronavirus, vous aurez ceux, et c'est pour ça qu'il ne faut plus appeler le SAMU si vous avez un simple rhume ou quelque chose.
Il faut appeler le médecin
traitant. Il y a une union sacrée et merveilleuse avec la médecine libérale, où on est en accord, et donc il faut appeler son médecin traitant qui vous donnera d'excellents conseils. D'accord ? Donc il y a ça. Il y a ces cas bénins. L'hôpital se tourne vers les fameux 15%, 20% de gens qui sont potentiellement graves.
Et est-ce qu'il y aura des respirateurs pour tous ces gens-là?
On est en train de les compter. Alors, on est en train de les compter. On est en train de voir comment s'organiser, comment agrandir la capacité du nombre de respirateurs. Notamment, il y a des salles qui servent normalement au post-op. Ils sont en train de réfléchir.
Post-opératoire.
Post-opératoire, notamment en Ile-de-France, sous l'autorité de Martin Hirsch et d'Aurélien Rousseau. Ils sont en train de recadrer ça pour le mettre. Les infectiologues sont avec, les réanimateurs médicaux font un travail considérable pour s'adapter là-dessus. Mais on ne dérogera pas à ce que le législateur, depuis des années, nous a dit contre l'acharnement thérapeutique. Si vous voulez m'entendre dire que des personnes qui sont démentes grabataires, d'accord, qui sont en fin de vie et qui attrapent le coronavirus, on n'ira pas sur des gestes de réanimation qu'on ne pratiquerait pas s'ils n'avaient pas eu le coronavirus. Donc ça ne changera pas nos pratiques. Mais on va tenter de sauver tout le monde. Ça, c'est sûr.
Est-ce que vous êtes en colère quand vous voyez des gens qui musardent en groupe, qui se prennent dans les bras sur les terrasses comme ce week-end, et le quotidien Libération qui fait une l'état d'inconscience? Est-ce que ça vous met en colère, le déni ou le sentiment un peu bravache des Français ou le manque de conscience?
Nous sommes bravaches. Nous sommes bravaches et nous avons marqué sur tous les frontons de tous les monuments et depuis les révolutions la liberté comme point sacré.
Et voilà. Et la responsabilité, où est-elle?
Alors, nous sommes face à quelque chose d'historique. Nous vivons un moment historique. Nous arrêtons le pays pour combattre un ennemi invisible.
Emmanuel Macron a dit nous sommes en guerre.
Voilà, c'est une vraie guerre sanitaire. Une vraie guerre sanitaire. Bon, le truc, c'est de comprendre que, bon, il y avait comme un sursaut par rapport aux premiers jours de l'été, un besoin d'être ensemble, peut-être pour affronter les difficultés.
Ou le dernier jour d'innocence, vous voulez dire? Vous êtes indulgent,
ouais,
Patrick Pelloux.
Je suis indulgent. Ouais. Il faut un peu de douceur. Il faut un peu de douceur. Maintenant, c'est sûr qu'à un moment donné, là, maintenant, on doit taper fort. Mmh. C'est pas contre le peuple,
d'accord,
c'est pour le peuple. C'est pour dire, voilà, on va essayer de limiter l'épidémie.
Mais c'est
vous
fini.
Vous avez incarné un moment de l'histoire après les attentats de Charlie Hebdo. On s'est retrouvés tous ensemble pour chanter la Marseillaise et défiler. Comment faire pour faire société si on est chacun isolé chez soi, confiné avec sa seule famille?
Merci de poser cette question. C'est pour ça que je suis très content de venir, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de chaînes et de productions qui veulent arrêter vos émissions. Ils ont tort. Il faut que vous continuiez à travailler. Il faut que vous apportiez de la douceur et du lien social. Parce que nous, soignants, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Parce que quand on est médecin, on sait compter jusqu'à 1. Le malade, unité. Vous êtes quelque part le haut-parleur qui parle à la société et qui fédère. Et vous avez tout à fait raison. Après les attentats, c'était quelque chose qui a fait l'unité et la nation. Quelque part dans cette crise, c'est quelque chose qu'on doit conduire, trouver et qui fait sens à notre objectif, c'est-à-dire d'essayer de sauver le maximum de malades.
Émergentiste, faire un appel lyrique et vibrant à la culture pour maintenir le lien social, vous pensez qu'il est tout à fait dans le juste?
Oui, la culture comprise comme une capacité des individus à faire du lien, à se protéger, à inventer. Mais pas la culture au sens de quelque chose de substantiel qui unirait un peuple contre un autre. On a parlé d'incivisme de ce week-end qui caractériserait les Français, alors que les Italiens, qui sont réputés pour être peu civiques, eux nous donnent des leçons d'un comportement
de discipline
approprié. Je ne crois pas en tant qu'anthropologue que la culture caractérise un peuple.
Claude,
est-ce que vous croyez en tant qu'anthropologue stigmatiser l'insouciance, le président de la République l'a fait tout à l'heure, s'adressant directement aux gens qui allaient se promener ce week-end en disant « vous mettez en danger les vôtres ». Patrick Pelloux, lui, qui est médecin, était plus indulgent. Est-ce que vous pensez qu'il faut culpabiliser les gens, c'est de la faute des gens, ou au contraire, il faut comprendre qu'on ne passe pas aussi facilement que ça de l'état de société libre à l'état de société sous surveillance pour son bien?
La crise sanitaire du coronavirus est mondiale et elle met à l'épreuve les États pour affronter une pandémie sans précédent. Et donc, ce qui est testé, c'est les relations entre les États et leur population, dans un cadre qui ne peut plus être national, avec des frontières. Le président Xi Jinping, en Chine, a inventé une technique de contrôle de sa population qui est tout à fait inédite et qui est très difficile à appliquer en Europe ou aux États-Unis.
On est allé jusqu'à clouer les portes des malades, les suivre dans la rue s'ils sortaient, les suivre avec des drones, etc. C'est-à-dire un cas extrême de surveillance de la population, en l'occurrence.
C'est pour ça que je ne parlerai pas d'insouciance de la part pour décrire la population française. Je crois que, au cours de la semaine dernière, le gouvernement français a beaucoup tâtonné entre plusieurs attitudes à l'égard de cette pandémie. Il a oscillé entre un modèle libéral et un modèle autoritaire. Il a choisi le modèle autoritaire très fermement, notamment par le discours du Premier ministre de samedi soir et à nouveau par le discours du Président de la République. Ce passage a été difficile à comprendre pour la population.
L'homme est un animal social, on le sait depuis Aristote, et puis on le vit nous-mêmes viscéralement. Comment un animal social vit-il, peut-il vivre, et avec quel éventuel traumatisme ou difficulté, le confinement précisément, le fait d'être isolé?
Les épidémies mettent à l'épreuve le lien social parce que pour pouvoir avoir une relation avec autrui, il faut avoir conscience de la possibilité qu'on échange des mots, des choses qui sont bonnes pour nous. Là, on échange des virus. C'est très dangereux, on se méfie, on se calfeutre. Vous dites « l'homme est un animal social ». Ce qui fait qu'il est un animal social, c'est qu'il parle. Et donc échanger des mots, échanger des idées, échanger des émotions, c'est très important. Les mesures de confinement sont assez insupportables pour nous parce que justement, depuis 20 ans, nous avons appliqué des mesures de confinement aux animaux. Nous n'avions pas appliqué les mesures de confinement aux humains. La vache folle, on disait qu'il y aurait 100 000 morts. Il y en a eu finalement une centaine en Europe, mais on a abattu des centaines de milliers de bovins. La grippe aviaire, on disait qu'il y aurait une centaine de millions de morts. Il y en a eu finalement pour le H5N1 à peu près 400. Et on a abattu des milliards de volailles dans le monde entier. Le confinement, on l'a appliqué aux animaux et ils n'étaient pas là pour nous dire ce que ça leur faisait.
Aujourd'hui, les familles sont séparées. Les grands-parents ne peuvent plus voir leurs petits-enfants, les garder pour leur propre bien, pour le propre bien des grands-parents. Comment est-ce qu'on répare cela? Comment est-ce qu'on fait, cet anthropologue, comment est-ce qu'on fait pour maintenir ce qui nous reste dans une société déjà assiégée, le lien familial?
Les sociétés chinoises ont beaucoup de leçons à nous donner. Depuis la crise du SRAS en 2003, cela fait 17 ans qu'elles s'attendent, qu'elles se préparent à une pandémie comme celle du coronavirus. D'ailleurs, le coronavirus actuel qu'on appelle SARS-CoV-2 est très proche du virus du SRAS. Il émerge des chauves-souris. Il s'est répandu très rapidement depuis le centre de la Chine. Et donc, ça a été une épreuve que connaissent tous les citoyens chinois.
Comment est-ce qu'ils ont organisé la famille autour de ça? Qu'est-ce que ça a changé dans les foyers, dans la préparation à ce type de catastrophe?
Les relations filiales sont très importantes dans les familles chinoises. Donc, les enfants s'occupent des parents. Les infirmiers se sacrifient pour aller soigner des patients. Ce sont des discours qui sont difficiles à entendre en France.
Vous connaissez bien la Chine, très très bien la Chine, et notamment la Chine confrontée à ces pandémies, enfin à ces épidémies. Comment voyez-vous, diagnostiquez-vous ce pays qui est à la fois archi pointu au niveau de la technologie et qui en même temps propose des gens qui vont manger des animaux sauvages, par exemple les pangolins ou les chauves-souris. Donc ces animaux, ils les mangent pour tenter de s'incorporer la force de l'animal, donc des gens qui sont en proie à des sortes d'obsessions archaïques. Comment concilier la technologie et l'archaïsme?
Je connais bien les frontières de la Chine, ce que j'appelle dans un livre qui devait paraître au mois de mars et qui paraîtra
absolument
finalement le 15 mai.
Un monde grippé.
À cause de la rupture. Oui. Les sentinelles des pandémies, chez Zones Sensibles, ce sera un très beau livre. J'espère qu'il sera disponible prochainement. Les sentinelles des pandémies, c'est ces territoires qui ont une histoire coloniale, Hong Kong, Taïwan, Singapour, qui justement, depuis la crise du SRAS, se préparent à une pandémie qui viendra du centre de la Chine. Or, ce qui est très intéressant avec la crise du coronavirus, c'est qu'on voit que les Chinois eux-mêmes se sont préparés en équipant Wuhan d'un laboratoire de biosécurité P4 qui leur a permis très rapidement de publier des informations sur le virus qui venait des chauves-souris. Donc, la Chine, effectivement, maintenant, est un territoire de haute technologie, avec un très haut niveau non seulement d'hôpitaux publics, mais aussi de réseaux sociaux qui sont contrôlés par le pouvoir, et surtout de biotechnologie. Alors, la difficulté que ça pose, c'est qu'on a ces images de marchés aux animaux où on dit que les Chinois mangent des chauves-souris. C'est faux. On en mange en Asie du Sud-Est, pas en Chine.
Des pangolins?
Des pangolins.
C'est vrai.
C'est pas tout à fait avéré que c'est le pangolin qui est transmetteur. En tout cas, c'est des marchés très complexes qui viennent à la fois de la chasse, des élevages. Il y a des élevages de pangolins pour la médecine chinoise traditionnelle. Tout ça est à mieux étudier.
Que reste-t-il de nous? Nous sommes une société occidentale, mais singulièrement la société française, fondée sur l'idée de la liberté. La liberté aujourd'hui est notre ennemi puisqu'il faut la réduire pour notre propre bien. Comment reconstruisons-nous une identité après cela?
L'histoire du libéralisme est profondément liée à l'épidémiologie. C'est parce qu'on a pu contrôler les épidémies dans leur foyer.